Bonjour, très
Bonjour à
bien,
vous, bienvenue sur
bienvenue
l'antenne de Radio
tous
Maria.
les auditeurs. Peut-être que nous pouvons commencer par relire ensemble ce passage de l'évangile de Jean, chapitre 17, 17, verset 20. Voici ce que dit l'évangile. Je te prie, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Qu'eux aussi soient en nous. Extraordinaire cette parole de l'évangile de Jean, chapitre 17, qu'ils soient en nous. Pour bien nous rappeler que le destin de la créature humaine, c'est de retrouver sa condition originelle, plénière, au sein de la Trinité. Et comme l'annonce aussi la première lettre de Jean, parce que nous le verrons tel qu'il est, dit l'évangile, la première lettre de Jean. Donc le destin est de retrouver, que l'homme retrouve, la créature humaine retrouve sa grâce, sa dignité originelle, telle qu'elle a été conçue, pensée et créée par son créateur. À partir du moment où nous avons cette vision, nous comprenons le dessein de toute l'humanité. Où va l'homme? Et je fais le lien avec ce temps de l'Avent dans lequel nous sommes de nouveau entrés. Et nous méditerons les lectures de dimanche prochain qui rappellent le contexte à la fois historique des grandes autorités de l'époque et qui montrent encore une fois au milieu de cette situation de l'époque, la venue, l'annonce, la prédication de Jean-Baptiste qui annonce cette bonne nouvelle. Le destin de toute l'humanité et donc l'annonce de cette bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, c'est le salut accordé, reçu à la créature qui retrouve la plénitude de la vie divine par le pardon de ses péchés, par la repentance et le pardon de ses péchés, par l'accueil du Rédempteur qui vient et meurt sur la croix. Extraordinaire, extraordinaire comme c'est étonnant comme nous pouvons contempler et méditer ensemble cette bonne nouvelle répandue sur toute l'humanité. Faire ce lien avec ce temps que nous vivons, justement pour bien comprendre ce temps particulier, confus, de crise, où nous avançons dans l'obscurité par la lumière de la foi et porteur de cette bonne nouvelle qui vient éclairer notre cœur. Le temps de l'Avent se prête particulièrement pour mieux comprendre encore ce détail, si je puis dire, de ces quelques semaines que nous vivons. Saint Jean-Paul II disait que la vie est comme un grand avant. Elle nous permet de recevoir la parole de Dieu, de méditer ensemble. Elle est une invitation quotidienne à la conversion. Nos gestes, nos prières, notre comportement nous amènent à nous situer face à Dieu par le moyen de la parole de Dieu, de la vie sacramentelle. Comprendre ce grand avant, c'est aussi se laisser éclairer sur ce que nous comprenons aujourd'hui des textes donnés tellement pertinent de la servante de Dieu, Luisa Picaretta. Souvenez-vous qu'elle reçoit ce message pour nous introduire dans ce don que fait Dieu de sa divine volonté, c'est-à-dire cette promesse accomplie qu'il donne dans le Notre Père, justement, Seigneur, quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Jésus fait cette promesse qu'il donne, justement, dans laquelle il rend la créature humaine capable de recevoir ce message et d'en faire porter un fruit immense. Ce don que nous recevons, mes amis, nous le vivons de trois manières. Pour être succinct, je vais aussi m'inspirer des textes de la servante de Dieu. Je rappelle que bien garder cette parole de Jésus par laquelle j'ai commencé cette petite émission, Jean 17, 20, « Qu'ils soient un, que eux aussi soient en nous », dit Jésus. Et comme c'est fondamental de bien insérer cette promesse, cette volonté divine et de la comprendre, parce que de cette manière-là, nous comprenons beaucoup mieux le sens de l'humanité. Où va l'humanité ? L'humanité est conduite, bon gré mal gré, parmi les tempêtes et les moments d'accalmie, vers son Créateur. Elle chemine inexorablement vers son Créateur, vers celui qui a créé toute chose, sommet de la création, la créature humaine, au terme d'un long cycle la création. Donc, c'est le destin de l'humanité. Cette humanité va, comme nous pourrions dire nous, que nous allons vers ce destin dans l'attente du retour glorieux de celui qui nous a apporté le salut par le pardon des péchés, par la croix offerte. Donc, le destin de l'humanité, nous avançons vers la réalisation plénière de cette promesse de Dieu. J'insiste parce que aujourd'hui, où nous sommes, comment le dire très simplement, souvent agressés, en tout cas dérangés ou parfois induits en erreur par un certain nombre de prophéties, plus ou moins correctes, interprétées et dont on ne sait parfois d'où elles viennent. Je ne parle pas des prophéties reconnues et données par des apparitions reconnues ou certains mystiques à qui nous pouvons donner un certain crédit. Je parle d'un certain nombre de paroles dites comme ça, véhiculées, et qui génèrent parfois une inquiétude. Eh bien, nous avons simplement à faire une bonne interprétation de la parole de Dieu et à comprendre que de toute manière, oui, nous avançons, nous sommes dans cette fin des temps depuis l'incarnation vers ce destin de l'accomplissement de la promesse, des promesses de l'Écriture, de la Bible. Et ce temps de l'Avent, bien sûr, nous s'y prête particulièrement puisque par la bouche de Jean-Baptiste, il y a cet accomplissement de la promesse. Revenons sur l'objet de cette émission qui est ce que nous disent les écrits de la servante de Dieu qui, par grâce, reçoit ce message dans la volonté de Dieu de donner, de faire comprendre. Elle va être à la fois l'interprète, elle va vivre l'expérience de ce message et en même temps la missionnaire. Elle est à la fois donc spectatrice en quelque sorte et acteur avec Jésus de ce don de la divine volonté que Dieu a désiré faire à toute l'humanité et dont vous et moi nous en sommes les témoins et ceux qui reçoivent, voyez, ce don extraordinaire qui nous permet vraiment de laisser à Dieu la plénitude de toute notre volonté humaine, de lui laisser nos actes et qui nous donne la possibilité d'agir en sa présence. Je disais trois étapes à comprendre, ce qu'on va appeler une substitution. Dieu, la volonté divine vient se substituer à notre nature humaine. Ça ne veut pas dire que nous n'existions plus. Nous faisons, nous agissons, nous continuons de choisir et de penser, mais librement, en demandant à Dieu de nous introduire pleinement dans son divin vouloir. C'est tout à fait différent que sinon nous serions comme des robots, vous voyez, qui n'agissent plus. Mais là, nous agissons en laissant toute la dimension à Dieu d'agir. C'est ce qu'il est dit le 21 avril 1922, dans laquelle Jésus nous éclaire et nous dit ceci. « Viens dans ma volonté avec moi, élevons-nous entre le ciel et la terre et adorons ensemble la majesté suprême. Bénissons-la et rendons-lui hommage pour tous, afin que le ciel et la terre soient remplis d'adoration. Tout le créé appartient ainsi totalement à Dieu. Dans la divine volonté, ainsi l'âme procure une joie immense. » Bien comprendre ça. Et un peu plus loin, Jésus lui dit: « Ma fille, les actions faites dans ma volonté dissolvent les actions humaines qui, transformées en actions divines, s'élèvent dans le ciel, circulent en toutes les créatures, embrassent tous les siècles. Ces actions demeurent en permanence dans ma volonté. Elles sont les défenseurs de mon trône contre chaque offense des créatures. Et cela non seulement pour le temps présent, mais jusqu'à la fin des siècles. » Tout ce que Jésus a vécu, l'âme le vit en lui et Jésus le vit en elle. Nous retrouvons ici ce beau texte de l'évangile de Jean que nous venons d'entendre. L'âme le vit en lui et Jésus le vit en elle. Et enfin, cette vie dans la divine volonté fait aussi hâter le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. C'est la plus grande chose que je veux donner, dira Jésus à la servante de Dieu, celle voulue pour l'homme dès son origine. Une volonté humaine ne suffit pas pour implorer cela et encore moins pour blesser la divinité. Ça prend la divine volonté dans une âme avec laquelle cette âme puisse blesser son créateur de divine flèche de telle manière qu'il ouvre les cieux et laisse sa volonté descendre sur la terre. La plus grande chose que j'ai voulu donner. Donc, ce don, ce désir est réalisé, voulu par Dieu dans ce monde. Quand Jésus dit « Le royaume de Dieu est au milieu de vous », il parle déjà de ce royaume présent en lui-même, en sa très sainte mère. Merveilleux passage pour comprendre ce don que Dieu nous fait. C'est grâce qu'il nous fait partager justement dans son divin vouloir. Et il l'a souhaité de toute éternité. Nous reprenons ensemble cette méditation, cette réflexion à travers cette parole de Jésus, ce temps de l'Avent qui est que nous partageons ensemble et qui correspond tellement à cette attente de la venue du Seigneur, cette attente de sa parole qui se réalise pleinement dans nos cœurs, de la paix que nous cherchons. de la lumière qui vient briller et changer, nous faire voir autrement ce que nous pouvons partager. Étonnamment, dans les textes que je vais vous partager maintenant, nous découvrons dans ce que Jésus dit à Louisa, à cette mystique, étonnamment, nous découvrons comment le Seigneur prépare en elle un terrain capable de recevoir, d'accueillir la toute-puissance de son amour. Et ce qui est surprenant, c'est qu'à la fois, il détaille assez simplement ce qu'il veut faire. Nous allons le voir, comment il le dit dans cette lettre du 19 mars 1935. Et en même temps, là où nous aurions envie de dire, bon ben tiens, comment va-t-il s'y prendre, nous voyons que Dieu, justement, que Jésus lui montre une voie très sainte, un itinéraire, on va dire, tout à fait accessible, puisque lui-même se propose d'accompagner son âme, cette âme. Voilà ce que dit Jésus le 19 mars 1935 à Louisa Picaretta. Tu dois savoir que la divine volonté et la volonté humaine sont deux puissances spirituelles. La volonté divine est immense et sa puissance est inatteignable. La puissance de la volonté humaine est petite. Mais comme les deux puissances sont spirituelles, l'une peut se déverser dans l'autre pour ne former qu'une seule vie. Toute la puissance est dans le vouloir. Et cette puissance étant spirituelle, elle contient l'espace pour être capable de mettre dans sa volonté le bien qu'elle veut et aussi le mal. De sorte que ce que veut la volonté, elle le trouve en elle. Si elle veut l'amour propre, la gloire, l'amour des plaisirs et des richesses, elle trouvera dans son vouloir la vie de l'amour propre, de la gloire, des plaisirs et des richesses. Mais si elle veut pécher, le péché aussi formera sa vie. Plus encore, si elle veut la vie de notre volonté dans la sienne, qui est voulue et commandée par nous avec tant de soupirs, si vraiment elle la veut, elle aura le grand bien de posséder notre volonté comme vie. Et s'il n'en était pas ainsi, la sainteté de la vie dans mon vouloir serait une sainteté presque impossible. Mais je ne sais pas enseigner des choses difficiles ni vouloir des choses impossibles. Ma manière habituelle est plutôt de faciliter, autant que cela est possible pour la créature, les choses les plus ardues. Jésus veut faire cet échange de volonté et il parle de ce don, de cette sainteté accessible, possible, qui n'est simplement que l'accueil de Dieu dans tout ce qu'il est. Cela revient à dire ce oui, ce fiat qui est l'accueil en plénitude de la volonté de Dieu qui devient suffisant pour que Dieu puisse agir. Ce n'est pas difficile, dit-il, je ne fais pas de choses difficiles. Ma manière habituelle est de faciliter cela pour la créature. Les choses les plus ardues et les plus dures sacrifient, si cela est nécessaire. J'y mets aussi du mien, afin que la petite puissance de son vouloir, là il parle de notre volonté humaine, soit soutenue, aidée, animé par mon invincible puissance. Souvent, en faisant ce constat devant une grande montagne avec l'impossibilité de grimper, nous sentons notre impuissance, notre misère, le poids de notre péché. Nous nous décourageons, nous crions et nous gémissons de notre incapacité et nous désespérons parce que ça fait partie du chemin et de la route. Et voilà ce que dit avec beaucoup de sagesse Jésus à Louisa. Et animé par mon invincible puissance, je en rends ainsi facile le bien de la vie dans mon vouloir, que que la créature veut posséder. Évidemment, il y a toujours ce désir qui nous appartient. C'est parce que Marie, la mère de Jésus, la mère du Rédempteur, consent et donne son fiat et sa volonté humaine, elle la donne et la remet vraiment, que Dieu va pouvoir agir dans toute sa plénitude et faire d'elle la mère du Rédempteur. De la même manière, nous donnons naissance et nous faisons vivre et jaillir, nous donnons vie d'une certaine manière au Christ qui peut continuer sa vie chaque fois que nous nous ouvrons et que nous accueillons son divin vouloir. Nous lui permettons de vraiment continuer d'aimer, de nous aimer. C'est un échange d'amour. Parce que répondre de cette manière-là est l'inviter dans notre vie, c'est l'inviter dans nos pas, nos gestes, nos regards, nos sens, nos affections, nos peines et nos joies. Il intègre ainsi toute notre vie. Voici ce qui est dit un peu plus loin. Mon amour est si grand que pour rendre plus facile, je murmure à l'oreille de son cœur. Si tu veux vraiment ce bien, je le ferai avec toi, je ne te laisserai pas seul, je mettrai à ta disposition ma grâce, ma force, ma lumière et ma sainteté. C'était merveilleux, merveilleux cette promesse. Si tu veux vraiment, Dix, je murmure à l'oreille de son cœur. C'est curieux, comment interpréter ces intuitions, l'oreille de notre cœur, ces ressentis parfois que nous pouvons avoir, encore que le ressenti pourrait être piégé parce que le sentir nous piège, c'est notre nature humaine blessée, mais l'oreille de notre cœur, pensons à ces intuitions secrètes de l'âme, au-delà du ressenti. Nous faisons les choses, nous avons intuitivement une force en nous pour nous conduire à décider cela, à faire cela, à entrer dans telle ou telle initiative avec confiance, avec foi. Voilà ce que c'est, ces murmures à l'oreille de notre cœur. Si tu veux ce bien, nous le voulons, le bien du divin vouloir, le bien, ce bien que cette promesse que ta volonté soit faite sur la terre, c'est-à-dire en moi, dans mon cœur. Et alors, dit le texte, je mettrai à ta disposition ma grâce, ma force, ma lumière et ma sainteté. Quand nous résistons à Dieu, nous résistons à la volonté de Dieu qui agit en toute chose. Ah ben non, j'en ai pas. Moi, je n'ai pas envie de le faire, ça ne me plaît pas. Et comment les choses peuvent arriver de cette manière-là? Finalement, nous résistons à sa grâce, sa force, sa lumière et la sainteté de cette toute-puissance divine. Nous rejetons tout en bloc. Nous ne retrouvons finalement qu'avec notre nature humaine. Et c'est une grande partie de nos activités. Nous pouvons dire que nous sommes tellement habitués à faire notre volonté que même si nous prions, Seigneur, que ta volonté soit faite, nous la disons dans notre Père, mais nous sommes tellement, préparés, formatés, habitué à concrètement et dans beaucoup de nos actes à mettre en avant notre volonté humaine et à nous laisser conduire plutôt par elle, et que finalement ça nous est difficile, ça nous est pas naturel de laisser à Dieu toute la part de la volonté libre. Nous avons un effort de conversion, une prise de conscience de la puissance de notre volonté humaine pour la lui remettre, la lui donner encore une fois et encore une fois. Seigneur, prends-la et aide-moi à reconnaître que tu veux agir à travers moi, en moi. Toutes ces prières que nous faisons et qui nous aident et qui sont un pas de plus pour rentrer par la grâce de l'Esprit Saint, parce que c'est toujours l'œuvre de l'Esprit Saint agissant en nous qui nous fait voir l'obstacle majeur qui nous faisait résister à Dieu. Je mettrai cela à ta disposition. Nous serons deux pour faire le bien que tu veux posséder. Évidemment, ce n'est pas une personne, ce n'est pas Jésus qui vient agir et je ne suis plus rien qu'une marionnette. C'est toujours lui et nous, lui en nous, mais c'est toujours nous qui agissons, nous qui nous prêtons notre volonté humaine pour permettre à Jésus d'être avec nous. C'est son désir, c'est son souhait, c'est la réponse de notre amour à son amour inconditionnel. Nous nous disons parfois et nous cherchons des mots pour dire, mais quelle réponse donner à un amour si grand, si immense, si fou, si délirant, si envahissant de l'amour, de cet amour de possession de Dieu dans nos vies? Bien, c'est notre réponse. C'est la réponse de laisser Jésus en nous. Et Jésus dira, ton amour pour mon amour, mais c'est mon amour en toi que tu me redonnes. Et il donnera cette belle parole que la vie est ainsi un échange d'amour continuel, un échange d'amour. Nous pouvons bien le comprendre. Comment ne pas déjà, saint Augustin en parlait dans la prière, dans ses commentaires sur la prière et sur la louange. Mais nous pouvons bien saisir que cette vie sur la terre, qui est une vie par la croix, une vie de souffrance, c'est vrai, mêlée de peine et de joie, mais c'est aussi un choix de porter la croix, que cette vie est un échange d'amour dès maintenant, qui nous fait vivre déjà quelque chose du ciel, accueillir le don de la divine volonté. C'est déjà entrer dans la vie du ciel, dans la vie des bienheureux d'une certaine manière. C'est vrai, c'est encore dans les écrits, je reprends ces paroles dites, qui sont tellement belles pour nous faire entrer dans ce don de Dieu. Nous avons dit que notre vie est un échange d'amour, est une réponse donnée continuellement à Dieu. Relisons, continuons de lire ces textes magnifiques. Et là, un petit commentaire donné par un saint récemment canonisé par le pape François, Maria di Francia, de la même époque, à la fois confesseur et père spirituel de Luisa Picaretta, qui va justement avoir un rôle important pendant toute une période de sa vie, et parce que justement, c'est un saint qui va travailler à la compréhension de cette relation qu'elle avait avec Dieu. Et voilà ce qu'il dit justement en essayant de commenter quelques paroles données par Jésus à la Vénérable. Il dit ceci. Le bon Jésus nous donne sa chair en nourriture et nous, en guise d'aliment pour lui, donnons-lui notre amour, notre volonté, nos désirs, nos pensées, nos affections. Voilà, c'est assez remarquable, assez étonnant comme parole donnée, puisque c'est vrai que nous vivons, nous avons l'habitude, nous vivons notre vie avec ce que nous sommes, désirs, pensées, affections, nous les portons en nous et nous oublions bien souvent ce qu'elles représentent. Nous n'avons pas idée de les donner, de les remettre. Elles nous appartiennent, nous souffrons de ce que nous ressentons, alors que Jésus nous propose de les accueillir pour que nous puissions les lui remettre, les lui donner. Voilà ce qu'il veut faire. Ainsi, dit-il, nous rivaliserons d'amour avec lui. Je disais tout à l'heure que notre vie est un échange d'amour. Nous rivaliserons d'amour avec lui. C'est étonnant cette parole. Comment pouvons-nous rivaliser d'amour avec l'amour de Jésus? C'est assez surprenant. Et pour bien montrer à quel point Jésus prend tellement au sérieux ce don qu'il nous fait de sa vie divine. Il la prend au sérieux de l'amour qu'il nous donne. Ce n'est pas simplement, comment dire, de temps en temps de donner quelques consolations. Jésus fait, le Christ vient faire infiniment plus que nous ne pouvons imaginer. Nous retrouvons cette parole de Paul. Alors, ne laissons entrer en nous rien qui ne soit de lui, dit le saint. Ainsi, en tout ce que nous ferons, tout servira d'aliment à notre bien-aimé. Et là, je reprends un texte que Jésus va donner un jour à Louisa le 6 février 1919, dans certains de ses écrits, dans lequel il va dire, dans le tome 12, ils seront en moi et avec moi, et je viendrai en toi, il entrera en moi, et je prendrai des saintes hosties. Je prendrai en toi des hosties pour m'alimenter. Étonnant ces paroles, alors il faut bien les resituer dans son contexte, sinon ça n'a absolument aucun sens, à quel point la vie divine dans la créature humaine unie à Dieu, la créature humaine devient, on peut le comprendre, non seulement une consolation pour le Seigneur, un moyen de réparation, et là Jésus va parler d'un aliment réciproque, comme si vraiment les actes faits dans la divine volonté, ainsi une vie humaine donnée, absolument abandonnée au bon vouloir de Dieu, et pouvait réjouir tellement le cœur de Dieu qu'elle serait ainsi comme un aliment pour lui. Et je reprends les textes tels qu'ils sont donnés parce que c'est assez extraordinaire la manière dont Dieu parle, Jésus parle à sa fille, lui montrant ce chemin de confiance, ce chemin d'abandon, ce chemin de lumière. Et donc je continue, nous ferons, tout servira d'aliment à notre bien-aimé Jésus. Notre faculté de penser, dit le Saint, doit alimenter la pensée divine. Ainsi, si nous pensons saintement, nous alimentons la pensée divine. De même, notre regard doit alimenter le regard divin. Nos paroles, nos émotions, nos affections, nos désirs, nos pas, nos œuvres. Tout doit servir à alimenter Jésus. Si nous alimentons Jésus de cette manière, dit-il, nous devons former l'intention d'alimenter aussi les créatures en Jésus. C'est la troisième heure avant la méditation de Gethsémani dans un très beau livre des 24 heures de la Passion. Voilà comment le Saint parle pour montrer la vocation, l'appel propre de Dieu qui vient au-devant de tous nos besoins.